Je vous propose ce matin de vous raconter l'histoire de trois personnes, de trois personnages, et en mettant le focus justement sur cet aspect de changement. Comment ils ont accepté, comment ils ont vécu le changement. Alors, voilà, Timothée, si... voilà, le changement, c'est maintenant. J'étais un peu court en termes de titre, alors j'ai plagié, voilà. Moi, c'est vrai. Le changement, c'est vraiment maintenant. Et donc, trois personnes qui ont vécu justement cette période de changement. L'histoire de Simon, l'histoire de Saul, et puis deux apôtres. Et on lit leur histoire dans Actes 8, voilà, les 25 premiers versets. Actes 8, 1 à 25. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'Église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Mais des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Saul, lui, ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Là où il passait, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait, car des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris, et il eut une grande joie dans cette ville. Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Cet homme-là est la puissance de Dieu ». Celle qui s'appelle la Grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car ceux-ci n'étaient encore tombés sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi, moi aussi, cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent se perde avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et aux liens de l'injustice. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage, et dit la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans de nombreux villages des Samaritains. Donc là, on a trois, il y a Philippe, mais il y a surtout Simon, Saul, et puis Pierre et Jean. Et je vous propose de voir dans un premier temps déjà l'histoire de Simon. Et Simon, lui, c'est un changement à deux étapes. Le texte nous dit que Simon, eh bien, c'est un magicien. Et sa magie lui permet de passer pour quelqu'un d'important aux yeux de la foule, au point qu'on disait de lui qu'il incarnait la puissance de Dieu. Et peut-être que même que cette activité eh bien, lui permettait de gagner sa vie. Mais surtout, être magicien, eh bien, vis-à-vis de la foule, ça lui donnait un statut social. Il était magicien. Même si au fond, eh bien, on voit que c'était un imposteur, parce que bien sûr, il n'avait aucun lien avec la puissance de Dieu. Et donc, il trompait la foule. Philippe arrive en Samarie et réalise des miracles encore plus extraordinaires que Simon. Et donc la foule, du coup, eh bien, est attirée par lui, attirée par Philippe, et délaisse Simon. Et les miracles sont tellement impressionnants eh bien, que Simon est aussi entraîné par ce mouvement, et puis il suit Philippe. La conséquence pour Simon eh bien, est qu'il n'est plus celui que la foule admire. Il perd son statut. Il perd le regard que la foule avait sur lui, de celui eh bien, qui incarnait la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui, au fond, pousse Simon à suivre Philippe ? Est-ce que c'est la curiosité? Est-ce que c'est l'admiration pour quelqu'un qui arrivait à faire des tours, hein, et bien encore plus grands que lui? On ne sait pas vraiment, le texte ne nous dit pas. Mais au fond, ce qui est bien avec Simon, c'est qu'il ne s'oppose pas à Philippe, comme ça a pu être le cas pour d'autres faux prophètes dans le Nouveau Testament. Il pourrait le combattre, il pourrait s'opposer à Philippe de manière à garder son statut de magicien, celui que la foule regarde, mais non, il n'a pas choisi cette solution, il choisit, Simon, de suivre Philippe. Il est dans une démarche d'obéissance. Et cette obéissance, le conduit au baptême. Et son baptême, dans l'histoire de Simon, est qu'une étape, parce qu'arrive après son baptême, les apôtres. Et Simon se rend compte que les apôtres arrivent à faire des choses encore plus extraordinaires que Philippe. Déjà, Philippe avait mis la barre assez haute, mais les apôtres arrivent et mettent la barre encore plus haute, parce qu'ils sont capables de faire venir l'Esprit-Saint en imposant les mains sur quelqu'un. Alors Simon, sa réaction, elle est logique par rapport à sa façon de penser. Il se dit « Ouais, moi aussi j'aimerais bien avoir ce don ». Et sa façon de penser, c'est de proposer aux apôtres de l'argent pour pouvoir acheter ce don. Ça ne lui est pas du tout venu à l'idée que ce don pouvait être gratuit. Et tout se passe comme si, pour Simon, que sa faculté ou la possibilité de transmettre l'Esprit-Saint était pour lui une manière de développer ses compétences de magicien pour pouvoir faire des tours encore plus extraordinaires, de manière à pouvoir retrouver son statut de quelqu'un important, celui que la foule regarde, et être vu comme quelqu'un qui incarne la puissance de Dieu. Alors il fait ce qui est logique pour lui, il propose de l'argent pour obtenir ce don. Et là, ça ne va pas bien pour lui quand il propose de l'argent. Parce que Pierre s'oppose, et s'oppose violemment, s'oppose vertement à Simon, et il lui dit « Prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée si c'est possible ». On connaît les réactions de Pierre, c'est une réaction assez forte, assez violente, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors d'autres passages de la Bible nous disent que oui, le pardon est possible. Mais au fond, on ne sait rien de l'attitude de cœur de Simon. À la suite de la remarque de Pierre, il demande aux apôtres de prier pour lui. Est-ce que c'est la peur qui le fait réagir comme ça, ou est-ce qu'il y a une vraie repentance? On ne sait pas, c'est difficile à dire. Mais la seule chose que l'on peut réellement dire est qu'il se rend compte de son erreur. Et il y a clairement eu un changement dans la vie de Simon, mais il est difficile de dire à quel point. Et moi, ce qui me fait douter de son engagement, au fond, c'est qu'il demande aux apôtres de prier pour lui. Comme si la prière des apôtres avait plus de poids que la sienne, comme s'il ne s'était pas pour lui-même approprié la grâce de Dieu, comme s'il avait besoin d'intermédiaires entre Dieu et lui. On peut dire que Simon s'est converti, il a fait un pas de foi parce que Philippe l'a baptisé, donc Philippe ne l'a pas baptisé comme ça à la légère, il a quand même certainement vu des choses, des transformations dans sa vie. Mais on peut dire que Simon n'a pas pleinement vu la signification et les conséquences de la grâce dans sa vie. Et même s'il a fait un pas de foi, mon hypothèse, quand il cherche à obtenir l'Esprit-Saint, est de retrouver son statut et de redevenir une personne importante. Alors qu'est-ce que la vie de Simon nous enseigne? Je crois que comme Simon, nous pouvons être dans des situations où changer pour ressembler à Christ nous fait perdre notre statut. Et sans parler de statut, mais nous fait perdre notre identité, la fait évoluer, fait évoluer qui nous sommes. Et dans le cas de Simon, le changement est radical. Et le prix à payer par Simon est important. La foule ne le regarde plus. Il n'est plus la personne importante. Et cette question est essentielle pour nous. Qu'est-ce que nous avons à perdre, à changer? À changer pour nous ressembler de plus en plus à Christ. Et c'est vrai que parfois, la perte peut être douloureuse. C'est parfois le cas quand de jeunes adultes se convertissent et qu'il faut rompre avec des relations qui n'honorent pas Dieu, qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est vrai que le prix à payer est élevé, mais qu'il est indispensable pour être en règle avec Dieu. Et le Seigneur nous demande d'éliminer tout ce qui n'est pas à sa gloire, tout ce qui nous éloigne de lui. Et parfois, quand on élimine ce genre de choses, ça peut être douloureux. Simon, avec la venue de Philippe, a perdu son statut. Ensuite, il a essayé de le reconquérir en obtenant l'Esprit-Saint, le don de pouvoir transmettre l'Esprit-Saint. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, et la réaction de Pierre a été très claire avec lui. Et lorsque nous nous convertissons, nous pouvons continuer à avoir nos vieilles habitudes, nos réflexes d'avant. Et ces habitudes peuvent durer longtemps après notre conversion, et ces vieilles habitudes ne concernent pas que les nouveaux convertis. Je vais vous donner deux exemples. Si je suis dans la vie quelqu'un plutôt d'engagé, d'actif, et que je me convertis, et je rentre dans l'église après ma conversion, et je garde ce même niveau d'activité, parce que je suis comme ça, parce que c'est ma nature. Et croire que le fait d'être engagé fait de moi un bon chrétien, entre guillemets. Mais au fond, c'est plus un statut que je recherche, d'être regardé comme quelqu'un qui fait plein de choses dans l'église, comme je fais dans le monde. Et c'est important de passer à de regarder quelle est la nature de ma motivation à être actif. Et puis il y a un exemple inverse. Si par exemple, eh bien, je suis quelqu'un qui ne m'attribue pas beaucoup de talent ou je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de dons, eh bien, quand je me convertis et que j'entre dans l'église, eh bien, ça peut être la même chose. Je peux aussi rechercher cette même place, ce même statut dans l'église. Et ce serait oublier, eh bien, que par la conversion, le Seigneur nous donne une nouvelle identité, des dons et des talents qui sont à mettre à son service. Et ça, c'est une promesse de l'Éternel. Même si la mise en œuvre de ces dons, eh bien, peut me rendre visible, alors que j'ai l'habitude d'être, entre guillemets, invisible dans le monde, eh bien, dans l'Église, la mise en œuvre de ces dons peut attirer les regards sur moi et me rendre visible. Ce que je veux dire par ces deux exemples, c'est que malgré l'intervention de Dieu dans notre vie, malgré notre conversion, et notre conversion est bien sûr un changement radical, nous pouvons rechercher dans l'Église à avoir au fond le même statut, la même identité qu'avant notre conversion, comme Simon l'a fait, hein, de retrouver un regard positif sur lui. Et c'est oublier, je crois, que le Seigneur nous transforme, qu'il a des projets pour nous que nous n'avions pas prévus avant notre conversion. Et par notre conversion, eh bien, nous avons un nouveau statut, une nouvelle identité. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et je crois que trop souvent, eh bien, nous nous comportons comme si rien n'avait changé. Alors que l'arrivée du Christ dans notre vie, eh bien, a été une révolution, a été un bouleversement, eh bien, on continue de se comporter comme s'il n'y a pas grand-chose qui s'était passé. Et je crois que c'est un enseignement que la vie de Simon, eh bien, peut nous apporter. Autre exemple, Saul. Saul dont on parle de lui au début du chapitre 8. Et Saul, c'est un changement radical. Parce que s'il y en a un pour qui le changement était radical, c'est bien Saul, dont la conversion est racontée au chapitre 9. Saul a été capable de changer du tout au tout. En 3 jours, il est passé de tortionnaire à apôtre. C'est quand même violent comme changement. Il cherchait à détruire l'Église, à anéantir le christianisme, et il faisait jeter les chrétiens en prison en les tuant. Il avait approuvé la lapidation d'Étienne, c'est ce qui est dit au premier verset du chapitre 8, et lapidation qui est racontée au chapitre précédent, au 9. Et premier verset du chapitre 9, il est dit de lui, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples. Saul avait une certitude, il fallait tuer, anéantir le christianisme. Et à l'occasion de cette prédication, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est que son maître, un de ses maîtres, un de ses professeurs à Saul, qui l'a formé sur la religion juive, eh bien, n'était pas d'accord avec lui. Et un de ses professeurs était Gamaliel, et Gamaliel le dit aux autres chefs religieux un peu plus tôt dans le livre des Actes, dans Actes 5, verset 38-39, simplement je vais la lire, je ne l'ai pas mis en référence. Actes 5, verset 38 et 39, donc c'est Gamaliel qui parle aux chefs religieux. « Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité, donc du christianisme, du développement de la parole, si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » Et vous voyez, il y en a un, Saül, qui cherche à détruire le christianisme, et Gamaliel, son professeur, dit « Laissons voir, si ça vient de Dieu, on ne pourra pas lutter contre ça. » Et avant de poursuivre, j'aimerais qu'on fasse une distinction entre les certitudes et les convictions. Quelle est la différence entre les certitudes et les convictions? Et je crois que cette différence, d'avoir conscience de cette différence, de cette distinction, est importante dans notre processus d'évolution. Je vais vous donner un exemple. En matière d'éducation, avant d'avoir des enfants, j'avais des certitudes. 18 ans après, j'ai des convictions. Vous voyez la différence entre les certitudes et les convictions? Les convictions, je suis prêt à en parler, sans forcément les remettre en cause, mais je peux en discuter. Avec les certitudes, ouais, j'en parle moins, quoi. C'est comme ça, et puis c'est tout. Je ne suis pas ouvert au dialogue avec les certitudes. Et quelque part, je suis enfermé dans mes certitudes. Les convictions sont réfléchies, sont argumentées, sont aussi nourries par l'expérience de la vie. Et je crois que le Seigneur nous fait évoluer des certitudes vers les convictions. Et nous avons à avoir des convictions. Elles sont le signe d'une foi profonde, étayée. Si, par exemple, mon seul argument face à quelque chose est de dire « on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça », ça, c'est une certitude. Et les certitudes sont un frein à notre évolution. Gamaliel, un des maîtres de Saul, avait des convictions. Et il le dit « Ne courez pas le risque de combattre avec Dieu ». Ça, c'est une conviction. Paul, lui, avait des certitudes que Dieu s'est employé à faire tomber, la certitude qu'il fallait tuer le christianisme. Et dans le cas de Paul, ces certitudes sont tombées de manière radicale. Et comme je l'ai dit, ça a duré 3 jours. Et Christ n'y est pas allé avec douceur avec Paul. 3 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour passer du statut de tortionnaire à celui d'apôtre. Voilà. C'est plus qu'une conversion, c'est une reconversion dans le cas de Paul. Est-ce qu'on est prêt, nous, à lâcher nos certitudes pour les remplacer par des convictions, quitte à se remettre en question, comme Paul l'a fait? Et ce que je trouve intéressant aussi avec Paul, c'est qu'il nous montre qu'il n'y a pas de situation où on est trop éloigné de Dieu pour se rapprocher de Christ. Et les circonstances de son changement sont à la hauteur aussi de la nature du changement. Christ lui a parlé directement à Paul. Et dans son cas, ce changement a été un bouleversement. Il est resté 3 jours aveugle et on peut penser que pendant ces 3 jours, il a pensé à sa condition, à sa relation avec Dieu. Au bout de 3 jours, il a retrouvé la vue, il se fait baptiser et annonce l'évangile. Et c'est un changement pour Saul, particulièrement brutal. Et ça s'appelle bien sûr la conversion. Et elle est radicale pour Paul. Ses certitudes ont été changées en convictions. Et je vois dans les premiers pas de la vie chrétienne de Saul aussi un deuxième enseignement pour nous. Et c'est intéressant de voir comment il a été intégré, comment il a été accueilli dans l'Église. Parce que cette intégration, cet accueil est instructive sur la capacité d'ouverture des chrétiens qui ont été en contact quelques jours après la conversion de Paul. Ils ont accepté le changement de Paul, ils l'ont accueilli dans l'Église, ils y ont cru à ce changement. Alors il y a eu des doutes, il y a eu des difficultés, mais ils ont fini par accepter Paul. Et je pense que l'attitude des chrétiens qui ont entouré Paul quelques temps après sa conversion est un enseignement aussi pour nous. Parce que nous pouvons ne pas voir que les personnes ont changé et garder sur eux notre regard d'avant leur changement ou d'avant leur conversion. Ça m'arrive de rappeler à mes enfants des comportements qui datent de 2-3 ans, vous voyez. Alors qu'à leur échelle, ce sont des années-lumière, ils ont changé de personne. Vous voyez, on ne peut pas dire à un enfant, non, écoute, je ne mettrai pas de papier peint dans ta chambre parce que quand tu avais 3 ans, tu l'as déchiré, tu auras de la peinture. Oui, mais papa, j'ai 22 ans maintenant. Bien sûr, c'est une caricature, mais parfois on regarde un peu les gens comme ça, sans regarder le changement. Et le regard que nous portons sur les personnes qui ont changé est essentiel dans le processus d'évolution. Si les chrétiens qui étaient en contact avec Paul quelques jours après sa conversion avaient continué à le regarder comme un meurtrier, s'il avait exclu, il n'aurait pas eu Paul le ministère d'apôtre qu'on lui connaît. Dit autrement et de manière peut-être plus imagée, si nous regardons le signe, si nous continuons à regarder le signe comme un vilain petit canard, jamais il va se rendre compte le signe qu'il est devenu un beau signe. Je laisse un petit peu de temps parce que j'ai conscience que c'est osé. Mais vous voyez quel impact, quel regard, comment on regarde les personnes qui évoluent. Et je crois que nous avons une responsabilité dans l'évolution des personnes qui nous entourent, ne serait-ce que par le regard que nous portons sur eux. Les apôtres, à présent, Pierre et Jean, eux, c'est un changement dans la durée. Et avant de parler de ces deux personnes, je vous propose un contexte, de revoir quelques mots, contexte historique et géographique sur la Samarie. Alors, la carte est un petit peu petite, est-ce que je n'ai pas vérifié s'il y a un pointeur? Non, il n'y a pas de pointeur. S'il y a un pointeur. Derrière, j'aurais révisé avant. Ouais, joli. Au nord, la Galilée. Au centre, la Samarie. Et au sud, la Judée. 700 ans avant l'époque des Actes, Samarie a été vidée des Juifs, si je puis dire, et le roi d'Assyrie a déporté les Juifs de cette région-là. Et seuls sont restés dans cette... Trompé de bouton. Mais il y en a plein en même temps de boutons, c'est pas évident. Et seuls sont restés les Juifs les plus pauvres, et cette terre de Samarie a été repeuplée par des étrangers. Et donc les Samaritains, dont on parle beaucoup dans les évangiles, dont on parle aussi ici, eh bien, sont un mélange de Juifs et de peuples étrangers. Et donc ils sont vus comme les Juifs de Judée, là où est Jérusalem, ils sont vus pour les Juifs de Judée comme des Juifs de seconde catégorie. Les Samaritains sont vus comme des Juifs de seconde catégorie, alors que les Juifs de Judée se perçoivent comme des Juifs à l'état pur, si je puis dire. Si bien que les deux populations se détestent. Et ce qui explique la manière dont on parle des Samaritains dans les évangiles et puis ici. Et on ne peut pas comprendre ce texte si on n'a pas ça au moins brièvement en tête. Et c'est dans ce contexte politique que Jésus est allé en Samarie, a eu des contacts avec les Samaritains, et c'est dans ce contexte aussi politique que Philippe est allé en Samarie et que les apôtres, Pierre et Jean, sont allés en Samarie. Et avec les apôtres, on a affaire à une évolution dans le temps qui est moins radicale que pour Paul ou pour Simon. Mais c'est quand même une évolution. Alors je propose de voir d'abord Jean. Jean, quelque temps avant sa venue en Samarie, eh bien, lorsqu'il suivait Jésus dans cette région, il a voulu détruire un village samaritain. Jésus venait de Galilée, au nord, il allait à Jérusalem, et donc, vous vous souvenez de la carte, il devait traverser la Samarie. Et un village samaritain a refusé de les accueillir. Et Jean, sa réaction a été de dire, voilà, Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire ? Ouais, Jean était dans cet état d'esprit-là. Bon, Jésus l'a un peu freiné ses ardeurs, ça s'est finalement bien passé, mais quand même, Jean était dans cet état d'esprit-là. Et là, maintenant, il vient en Samarie pour y annoncer l'évangile. Et je pense qu'entre ces deux situations, entre le moment où il voulait détruire le village de Samarie et le moment où il y annonce l'évangile, eh bien, je pense que son regard sur les Samaritains a évolué. Christ a travaillé son cœur pour qu'il fasse preuve d'amour vis-à-vis des Samaritains. Quelque temps après leur visite en Samarie, donc de Pierre et Jean, Pierre, lui, va permettre à la première famille non-juive de recevoir l'Esprit-Saint. Et le chapitre 10 des Actes, raconte la rencontre entre Pierre et Corneille. Corneille, vous connaissez Corneille, officier romain, non-juif, il envoie deux serviteurs et un de ses soldats chercher Pierre. Pierre vient à Jaffa, chez Pierre et Corneille, dans sa famille, et puis il annonce l'évangile. Et le texte nous dit que tous ceux qui étaient là et qui écoutaient la parole, qui entendaient la parole, ont reçu l'Esprit-Saint. Et c'est la première fois que des non-juifs recevaient l'Esprit-Saint. Et ça a été un choc pour les juifs qui s'étaient convertis, enfin en tout cas les chrétiens qui étaient d'origine juive, parce qu'ils considéraient que pour devenir chrétien, il fallait d'abord respecter la loi juive, et notamment la circoncision. Et là, dans ces cas-là, quand ils voient l'Esprit-Saint donner sur des non-juifs, leur certitude s'écroule. Et au début de cette rencontre entre Pierre et Corneille, Pierre leur dit, là aussi je le dis, je ne l'ai pas mis en référence, c'est chapitre 10, verset 28, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. » Vous voyez, on était dans cet état d'esprit-là avant d'être en contact, Jean était dans cet état d'esprit avant d'être en contact avec Corneille. Et plus tard, au chapitre 15, Pierre, s'adressant aux anciens, enfin responsables de l'église de Jérusalem et aux autres apôtres, il dira, chapitre 15, versets 7 à 9, « Pierre se leva et leur dit, « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. » Pierre aussi est passé des certitudes aux convictions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une progression dans le cheminement de Pierre. Il s'est d'abord adressé aux Juifs de Judée, ensuite aux Juifs, si je puis dire, de seconde catégorie, là, à la suite de Philippe. Et troisième étape, il s'adresse aux non-Juifs. Vous voyez l'évolution de Pierre. Et en quelques années, les apôtres sont passés d'une situation où l'un d'entre eux voulait détruire un village de Samarie, des Samaritains, ils voulaient faire tomber le feu du ciel sur eux, à une deuxième étape où eh bien, ils annoncent l'évangile aux Juifs de seconde catégorie, vous voyez, selon eux, en Samarie, et à permettre que l'Esprit-Saint soit donné aux non-Juifs. Et là aussi, ça aura sans doute demandé de faire tomber quelques certitudes. Et ce qui leur a permis cette évolution, eh bien, est l'obéissance à Christ. Et cette obéissance est un enseignement aussi pour nous. Ils ont fait des choses, Pierre et Jean, les apôtres. Les apôtres ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais faites si Christ ne les avait pas incités à faire. Et s'ils n'avaient pas obéi à Christ. Et l'obéissance est un point essentiel dans notre évolution. Dans notre évolution, pour ressembler toujours plus à Christ, eh bien, c'est un acte d'obéissance. Christ nous demande de toujours plus lui ressembler. La dernière partie, un peu en synthèse de ce que j'ai dit, de ces trois exemples de Simon, de Saul, de Pierre et de Jean. Suivre Jésus, c'est accepter que l'on soit transformé à son image. Comme je viens de le dire, c'est un acte d'obéissance. Avancer sur le chemin qu'il nous demande d'emprunter et lui exprimer notre confiance, eh bien, en le laissant faire, c'est un point d'obéissance. Le laisser faire, lui faire confiance dans notre transformation. Et vous voyez, parfois il y a un paradoxe, on ne peut pas chanter au culte « Je suis l'argile et tu es le potier » et en même temps lui résister. Il faut se méfier de ce chant, parce qu'il veut bien dire ce que ça veut dire, nous laisser nous transformer. Alors j'ai envie de nous poser une question ce matin. Quel est le chantier que le Seigneur a actuellement dans vos vies, dans nos vies? Quelle est la partie de notre caractère sur laquelle il y a marqué « travaux en cours, en travaux » Qu'est-ce qui, chez nous, est en train d'être réformé? À quel endroit de notre caractère, encore une fois, le Seigneur travaille pour que l'on ressemble de plus en plus à Christ? Car, voilà, on n'a pas d'autre choix que celui d'évoluer, à la manière de Paul, à la manière de Simon ou à la manière des apôtres. Ça peut parfois être radical, ça peut parfois être un changement dans la durée. Et c'est ce que dit Jacques dans son épître, un verset qu'on connaît bien si on connaît la Bible. Jacques 1, verset 23-24. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Parfois, tout se passe comme si on regarde notre visage dans une pièce un peu sombre. Et comme il n'y a pas beaucoup de lumière et qu'on se regarde, on se dit « ouais, pas mal ». Mais quand on commence à lire la parole, quand on passe du temps avec le Seigneur, eh bien, tout se passe comme si, là encore, où le miroir était éclairé. Et là, on voit tous nos défauts qui nous séparent de Christ. Et là, on fait moins le fier, si je puis dire, parce qu'on voit tout, encore une fois, tous les défauts de notre visage. Et c'est vrai que ça suppose de passer du temps avec Dieu pour qu'il nous révèle tous les aspects de notre personnalité qui nous éloignent de la ressemblance de Christ. Et si je ne prends pas ce temps avec Dieu dans la prière, dans la lecture de la parole, eh bien, je ne pourrais pas avoir conscience des changements que j'ai à faire. Tous les domaines de ma personnalité que j'ai à faire évoluer. Et c'est vrai que c'est un travail de toute une vie, et j'aurais tort de le mettre de côté, d'être satisfait de comme je suis. Parfois c'est douloureux, c'est pas facile, mais c'est ma responsabilité de chrétien. Et au fond, pourquoi changer? C'est le titre de cette partie, pourquoi changer? Alors, on a déjà vu que c'était un acte d'obéissance, mais si nous faisons ce travail sur nous-mêmes par peur ou par obligation, je crois qu'on n'a rien compris. Et la motivation de Saul, de Paul, était de se laisser transformer et de devenir ensuite l'apôtre que l'on connaît, n'était pas la peur, ou parce qu'il devait le faire, ou encore par culpabilité, hein, parce que lui, son moteur a pu être la culpabilité à Paul, compte tenu de son passé. Et c'est peut-être quelque chose que l'on oublie d'ailleurs en lisant les textes magnifiques que Paul a écrits, si riches d'enseignements, qui ont été rédigés par quelqu'un qui, au début de sa carrière, si je puis dire, eh bien, massacrait les chrétiens et voulait anéantir le christianisme. Et jamais on lit dans ses écrits un sentiment de culpabilité que son passé aurait pu lui donner. Paul avait compris qu'il avait été pleinement pardonné. Et surtout, il a compris de quoi il avait été pardonné. Il sait d'où il vient, Paul, et ça lui donne l'élan et l'enthousiasme pour répandre l'évangile. Et la question aussi que je nous pose ce matin, est-ce qu'on est suffisamment reconnaissant de tout ce que le Seigneur nous a pardonné? Paul savait d'où il venait, encore une fois. Il savait de quoi il était pardonné. Il avait pleinement saisi la signification de la grâce. Alors ma motivation a changé, et bien sûr l'obéissance, mais au-delà de ça, sa motivation a évolué, était nourrie par la joie de servir un tel maître. Aussi bon, aussi rempli d'amour pour Paul, pour lui, qui se voyait comme le moindre des apôtres. Il le dit dans 1 Corinthiens 15, versets 9 à 11, « Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Et pour nous aussi, ça doit être notre motivation, être conscient de la grâce dont nous avons bénéficié, dont nous bénéficions, et d'être poussé par la joie et la reconnaissance à le servir. Et au-delà de le servir, eh bien de nous laisser transformer pour lui ressembler toujours plus. Tout en étant conscient qu'on n'y arrivera jamais totalement. Parce que notre nature profonde est d'être des pécheurs. Et donc, c'est un travail constamment à renouveler. Mais c'est le sens de ma vie de chrétien. Être joyeux que Christ me transforme à son image, en le laissant faire, en lui exprimant ma confiance, parce que je sais qu'il m'aime. Alors prions pour pouvoir dire, comme Paul, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, non par nos forces, par nos efforts, mais par la grâce. » En conclusion, j'aurais aussi aimé vous parler de Philippe, dont il est question dans cette histoire. C'est presque le héros, l'histoire. Et puis il est chouette, Philippe. Il ne se pose pas de questions. Il sert à table, il va en Samarie évangéliser. Voilà, c'est vraiment un gars super. Bon, je vous laisse à votre méditation personnelle. Mais ce que j'aimerais vous retenir de cette prédication, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que celui de changer. Tous. On n'a pas d'autre choix que celui d'évoluer. Pour ressembler toujours plus à Christ. À la fois par obéissance, mais aussi parce que nous devons presque, c'est pas un devoir, ça devrait pas être un devoir, mais d'être poussé par la joie et la reconnaissance de ressembler à un tel maître. Alors approchons-nous, comme l'a dit Jean-Yves en introduction, rapprochons-nous de Dieu avec confiance, en dépassant nos peurs, en abandonnant ce dont nous avons besoin de nous débarrasser, en mettant de côté nos certitudes pour les transformer en convictions, et aussi et surtout, j'ai envie de dire, en lui faisant confiance. Pour terminer, je termine par un verset, c'est lui, donc c'est Paul qui parle, c'est lui que nous annonçons, donc c'est Christ qui l'annonce, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. Et c'est ça notre boulot, j'ai envie de dire, c'est ça notre responsabilité. L'objectif de cette évolution personnelle est de nous transformer en adultes dans la foi, c'est-à-dire des gens et des chrétiens debout, prêts à le servir, être transformé par lui, être des adultes capables de prendre nos responsabilités de chrétiens et à le servir. Amen.
Merci Arnaud.